Actualité, Éric Bataillon.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, nous allons revenir avec la rédaction sur 7 jours d'information. Un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invitée est une ancienne journaliste de presse écrite et audiovisuelle, notamment pour France 2, Canal+, l'événement du jeudi ou encore les dossiers du Canard enchaîné. Aujourd'hui, elle se consacre à l'écriture. Bonjour Fadila Semaï.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel, L'ami parti devant, un récit qui met en scène l'un des moines de Notre-Dame de l'Atlas, Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibirine. Rappelons que 7 moines trappistes de Tibirine ont été enlevés pendant la guerre civile algérienne en mars 1996 et leur corps sans vie rendu par le GIA le 21 mai de cette même année. Il y a donc 20 ans tout juste, mais ce n'est pas cette histoire que vous racontez.
Non, c'est pas du tout cette histoire que je raconte et ce que j'ai voulu absolument... faire passer comme message en écrivant, en souhaitant enquêter sur l'amitié entre Christian de Chergé et celui qu'il appelait Mohamed, son ami Mohamed, c'est l'histoire d'une fraternité qui a dépassé tous les obstacles. C'est-à-dire, ça a dépassé la guerre, puisqu'on sait qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre d'Algérie. Ça a dépassé la guerre, la terre, la religion, la condition, la culture. Et je trouvais que, avec un peu de recul, puisque ce livre vient de sortir, je trouve que cette histoire d'homme, cette histoire de cœur d'homme nous ramène justement à l'actualité que vous allez sans doute dérouler et qui nous dit le défi que nous sommes à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui, qui est un grand défi de l'Alliance dans un monde qui s'agite, qui se morcelle, qui doute, qui a peur. Et voilà, c'est cette histoire que j'ai voulu raconter.
Et c'est une histoire très ancienne, mais qui a une résonance avec ce qui s'est passé ensuite à Tibirine, quelques 40 ans plus tard.
Absolument, merci de le préciser, parce qu'évidemment, en enquêtant sur ces deux hommes, je suis allée à la source parce que, personnellement, j'avais le sentiment que quelque chose était occulté dans l'histoire des moines de Tibérine, de l'esprit de Tibérine. Et effectivement, je suis allée à la source de cette rencontre.
Alors nous en reparlerons tout au long de cette émission, mais tout de suite, place à l'actualité avec l'ouverture du procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers, près de Liège, en Belgique. 3 semaines seulement après les attentats contre Charlie Hebdo à Paris et l'hypercacher de Vincennes, une cellule qui préfigurait à mains égards celles qui commirent les attentats de Paris en novembre et Bruxelles en mars. Le procès a débuté lundi pour 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. David Thompson.
C'est le procès d'un attentat déjoué dans lequel le Belge Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attaques du 13 novembre à Paris, jouait déjà un rôle central. Les faits remontent au soir du 15 janvier 2015 quand les forces d'élite de la police belge donnent l'assaut sur une maison de Verviers, ville industrielle à l'est de la Belgique. À l'intérieur, 2 hommes ripostent en ouvrant le feu au fusil mitrailleur sur les forces de l'ordre. Ils sont rapidement tués. Ces 2 djihadistes belges étaient étroitement surveillés depuis leur retour de l'État islamique en Syrie, selon les autorités. Ils étaient sur le point d'enlever des policiers pour filmer leur décapitation. Peu après cet assaut, dans le magazine du groupe I, Abdelhamid Abaoud, tué à Saint-Denis par la police française un an plus tard, avait lui-même revendiqué la direction de cette cellule et confirmé ses intentions terroristes. Le djihadiste belge de l'État islamique qui allait frapper la France un an plus tard avait même affirmé avoir réalisé un aller-retour en Europe à cette occasion, parvenant ainsi à narguer les autorités avant de retourner en Syrie. En tout, 16 individus vont être jugés pendant 3 semaines pour cette affaire de Verviers. 3 sont en détention, mais 9 autres sont en fuite. La plupart sont actuellement en Syrie ou en Irak, au sein de l'État islamique.
Et au Bangladesh, le chef du principal parti islamiste du pays a été pendu à l'issue de sa condamnation à mort. Les autorités lui reprochaient des crimes datant de la guerre d'indépendance en 1971. Cette exécution survient au moment où le Bangladesh traverse une période de troubles après la vague d'assassinats à coups de hache par des islamistes présumés, de blogueurs laïcs, d'intellectuels et de membres de religions minoritaires. Marie Dumière à Dakar.
Motiur Rahman Nizami a été pendu. Le chef du principal parti islamiste du pays n'a pas voulu demander la grâce présidentielle, une demande qui impliquait la reconnaissance des crimes pour lesquels il avait été condamné. Nizami avait été jugé coupable de meurtre, de viol et d'avoir planifié l'assassinat d'intellectuels et de médecins pendant la guerre d'indépendance de 1971. Il a été condamné à mort par un tribunal mis en place par le gouvernement et très critiqué par les organisations de défense de droits de l'homme. Human Rights Watch avait demander à ce que son exécution soit suspendue et dénoncer un procès contraire à une justice équitable. Les observateurs redoutent maintenant une montée de violence dans le pays. En 2013 et après l'exécution de plusieurs autres dirigeants du même parti islamiste, des affrontements avec la police avaient causé la mort de 500 personnes. Le Bangladesh est déjà sous tension. Ces dernières semaines, 6 personnes, dont des défenseurs de la laïcité, ont été tuées à coups de machette. Des attaques pour la plupart revendiquées par l'organisation État islamique et Al-Qaïda, mais le gouvernement bangladais tient Jamiat Islami pour responsable, une accusation que réfute le parti islamiste.
Sept jours dans le monde.
L'élection présidentielle aux Philippines a été remportée lundi par Rodrigo Duterte. Celui que l'on surnomme le Donald Trump philippin a largement battu sa concurrente Grace Poe. Le nouveau président s'est fait remarquer durant sa campagne par ses propositions radicales, comme par exemple celle de tuer 100 000 délinquants. En Corée du Nord, le 7e congrès du Parti communiste s'est achevé lundi par la désignation de Kim Jong-un au poste de président du parti, une fonction qui n'existait pas auparavant. Cette nomination indique que le jeune dirigeant consolide sa position au sommet de l'État. Par ailleurs, ce congrès a énoncé une nouvelle doctrine dans le domaine nucléaire. Écoutez l'analyse d'Antoine Bondaz, chercheur à l'Asia Center à Paris.
Le message au final est de présenter la Corée du Nord comme une puissance nucléaire normale, c'est-à-dire une puissance nucléaire qui n'utilisera pas ses armes à d'autres fins que des armes de dissuasion, qui ne proliférera pas vers d'autres potentielles puissances nucléaires. Ce qui est intéressant, c'est au final plus la forme que le fond. En effet, la Corée du Nord avait annoncé dès 2012-2013 que ses armes étaient des armes avant tout de dissuasion et qu'elle n'en ferait pas usage en premier. Cependant, faire cette annonce alors que les regards internationaux sont braqués sur Pyongyang dans le cadre du Congrès, permet de faire passer un message à la communauté internationale et indirectement de la rassurer.
Alors ça tranche un petit peu avec ce qui s'est passé ces derniers mois et ces essais qui ont inquiété justement la communauté internationale.
Ces déclarations tranchent mais s'inscrivent en réalité dans quelque chose qui est connu et fréquent en Corée du Nord, une période d'offensive de charme diplomatique qui fait suite à une période de forte provocation et de forte hausse des tensions dans la péninsule coréenne.
RFI. Voilà une musique qui fait penser au Brésil et justement nous y allons puisque Dilma Rousseff, finalement cette fois c'est fait, a été écartée du pouvoir à l'issue de plus de 20 heures de prise de parole. Le Sénat a voté en faveur d'une suspension d'activité officielle pour 6 mois. 55 sénateurs sur 81 ont voté la mise en accusation de l'impopulaire dirigeante de gauche qui n'a reçu l'appui que de 22 élus. Dilma Rousseff est remplacée par son vice-président Michel Temer qu'elle accuse de coup d'état institutionnel en attendant évidemment le jugement final des sénateurs d'ici 180 jours. En tout cas, ce processus montre les limites du système politique brésilien actuel, selon Alfredo Valadao, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.
Il favorise la fragmentation des partis. Il y a 35 partis au Brésil, dont 25 représentés au Congrès. Le Parti des travailleurs au pouvoir n'a jamais eu plus de 20% des sièges et des voix. Donc pour gouverner, il faut faire des alliances avec parfois 15 partis, comme c'était le cas de Mme Rousseff. Et il fallait distribuer des prébendes de l'État à ces 15 partis, et cela favorisait aussi la corruption. Et donc aujourd'hui, tout le monde est tout à fait conscient que ce type de système électoral n'est plus possible, qu'il va falloir le changer d'une manière ou d'une autre. La difficulté, c'est que ce sont les mêmes parlementaires qui devraient le changer. Tout ce qui s'est passé au Brésil depuis quelques mois, c'est une véritable leçon de droit constitutionnel, de démocratie et ses limites, d'apprendre qui sont ou non les sénateurs et les députés pour toute la population. Aujourd'hui au Brésil, même le plus modeste des employés ou des paysans a entendu entendu parler de ce que c'est qu'une destitution, un parlement, etc., etc. Et je crois que c'est une très bonne leçon de démocratie pour l'ensemble des Brésiliens.
La mort d'un responsable du Hezbollah libanais en Syrie, il s'agit d'un des principaux commandants militaires, également bras droit d'Hassan Nasrallah, le chef de l'organisation. Le milicien chiite a été tué dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. Paul Khalife à Beyrouth.
Mustafa Badreddin était le commandant militaire suprême du Hezbollah. Comme son cousin, beau-frère et prédécesseur Ahmad Mourni est assassiné à Damas en 2007, il était l'un des fondateurs du parti chiite au milieu des années 80. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore clairement déterminées. Le Hezbollah a affirmé qu'une forte explosion s'est produite dans une de ses bases, près de l'aéroport international de Damas au sud de la capitale, provoquant la mort de Mustafa Badreddin et faisant plusieurs autres blessés. Le parti a affirmé qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion. Considéré comme une légende vivante par les partisans du Hezbollah, son nom avait été cité par le procureur du tribunal spécial pour le Liban comme le principal accusé dans le meurtre en 2005 de l'ancien premier ministre libanais Rafiq Hariri. Le Hezbollah a toujours refusé qu'il soit interrogé dans le cadre de cette affaire, jugeant l'accusation politique. Mustafa Badreddin dirigeait en Syrie le contingent du Hezbollah, évalué entre 7 000 et 10 000 hommes qui se battent aux côtés du régime syrien.
Au Canada, l'incendie de Fort McMurray dans la province de l'Alberta a ralenti sa progression, mais il faudra peut-être plusieurs mois avant que les flammes ne soient totalement éteintes. Plus de 200 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, soit 20 fois la superficie de la ville de Paris. Et les habitants s'organisent, ceux qui fuient les flammes et ceux qui les accueillent, comme nous le donne à entendre ce reportage de Marie-Laure Josselin sur place.
C'est quelqu'un qui était en charge ici?
Oui.
Je voulais donner des affaires.
Deux sacs à la main, Madame Marchand entre sur la patinoire de Plamondon, désormais transformée en centre de dons et de distribution alimentaire.
Plus de vêtements, désolé, on a...
Vous n'avez trop.
Même si elle héberge déjà 6 personnes évacuées, de la famille, mais aussi des inconnus, elle est venue donner, comme tant d'autres. Les tables sont remplies.
On a des couches de différentes grandeurs, du papier de toilette, on a la toiletterie hommes et femmes, des têtes d'oreiller, des couvertures, de la nourriture pour chiens, de l'amusement pour enfants. On a tout ce qu'il faut pour rétablir la vie.
Claude Lamoureux est enseignant à l'école francophone, mais aujourd'hui, il transporte des sacs de pommes de terre pour les sinistrés. Lui aussi a accueilli des inconnus dans sa maison.
Et on a ouvert la maison, puis on dit, écoute, t'habites là, puis pour combien de temps? Comme tu veux. Combien ça coûte? Rien. How are you? Are you okay?
Yes. Yeah,
all right. So?
Just need to find pants for my boy.
Angela Rochon a quitté à la va-vite Fort McMurray, alors elle est là, triste, fatiguée, essayant de sourire quelquefois, et cherche une paire de jeans pour son fils.
Still a little overwhelmed, just trying to, I guess, trying to get into a normal routine. I don't know.
Aujourd'hui, elle a inscrit les enfants à l'école de Plamondon, le début d'un retour presque à la normale.
Et plus d'informations et plus de développement, évidemment, sur tous ces sujets dans nos journaux, aux heures et aux demi-heures. Fadila Semaï, y a-t-il dans cette actualité quelque chose qui vous inspire ?
Écoutez, cette actualité, comme souvent, elle est quand même pas très, comme on dit, glamour. Hein. Elle est assez terrifiante. Mais moi, ce que ça m'inspire quand j'écoutais tous ces sujets, je me disais, chez les êtres humains, chez tout un chacun, il y a une volonté que le monde change. Et que ce soit un monde différent, plus paisible, plus accueillant. Et on est habité de cette volonté. Et en même temps, on dirait qu'il y a une force à l'intérieur de nous qui n'arrive pas à se lever pour que véritablement ça change. Je parle là pour chacun. Hein. Je ne suis pas en train de rentrer dans un système ou une idéologie. Et ça m'amène au livre. Je vous prie de m'excuser. Mais en même temps, je me dis, ces deux hommes, ils ont eu une démarche totalement opposé de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire pas de fracture, pas d'opposition, pas de volonté de dominer l'autre, pas de volonté de posséder l'autre. C'était deux hommes différents, avec des traditions spirituelles différentes et avec des univers culturels et totalement et radicalement différents. Donc vous voyez, ça me donne une espèce de contraste qui m'intéresse en même temps, parce que je me dis, il y a quelque chose qui individuellement est possible, à condition qu'on ramène cette individualité dans un tout, dans une humanité et pas dans une sorte de communauté d'idéologie.
Alors justement, Fadila Semaï, parlons de votre livre. Quel était votre état d'esprit quand vous avez entamé cette démarche pour aller trouver cette histoire d'amitié ?
Alors, je dois être tout à fait honnête. J'ai été saisie par Christian de Chergé et son ami Mohamed. J'ai vu un jour un documentaire de Emmanuel Audrin, j'en parle dans le livre, et en découvrant cette histoire, j'ai été saisie intérieurement, le cœur a été saisi. Alors évidemment, en tant que journaliste, quelques années auparavant, je connaissais l'histoire des moines de Tibérine, j'avais même travaillé dessus. Mais véritablement, ce qui m'a mis en route intérieurement, ça a été de découvrir justement cette radicalité et l'histoire de ces deux hommes, l'amitié et le don de chacun.
Rappelez-nous comment ils se sont rencontrés.
Alors, Christian de Chergé a fait son service militaire à l'âge de 22 ans en Algérie, dans une petite commune rurale qui s'appelle Aïn Saïd. Et il était à l'époque sous-lieutenant, donc c'était un officier sous-lieutenant. Et il a rencontré un homme de 47 ans, donc un aîné, qui était garde champêtre, algérien, musulman. Et ils ont commencé à travailler ensemble.
Ils se rencontrent dans un petit village, c'est cela ?
Ils se rencontrent dans le Djebel, dans la montagne. Ils ont commencé à sillonner ensemble la montagne pour recenser, pour pointer les ouvriers, etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont...
Et c'était un peu avant les événements des années 60.
C'était en 59, donc nous étions en plein dans la guerre d'Algérie. Donc ça dit combien ces hommes ont été capables de quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est un exceptionnel qui nous appelle, ce merveilleux, moi j'ai le sentiment que ça nous appelle aussi chacun à nous interroger et à peut-être nous dire il est possible de se transformer, il est possible de rencontrer l'autre sans peur, il est possible de faire de notre monde quelque chose d'autre qu'un monde de domination et de possession. Et cette amitié... C'est quand même deux hommes, deux humains comme vous et moi, deux cœurs qui battent. L'amplitude que ça a donné, moi c'est ça qui m'a véritablement mise en route.
Est-ce que le choix de travailler sur ce sujet, qui était un sujet que vous habitez visiblement, est-ce que ça a un lien avec votre histoire personnelle ?
Alors, évidemment, je peux pas nier, je suis française, je le dis dans le livre, je suis une citoyenne française descendante de parents algériens, donc forcément l'histoire de l'Algérie me touche. Mais attention, j'ai aussi eu un saisissement intérieur et je crois que dans le livre, on voit bien aussi que je suis moi-même touchée et transformée par cette histoire. Donc c'est quand même, oui, l'Algérie ne m'est... Mais d'une certaine manière, c'est un pays qui m'est familier de par mes parents, parce que je le connais pas tant que ça. Mais pas seulement, ce serait réduire cette amitié, c'est véritablement transcender. Et quelque chose qui m'a profondément touchée, c'est que je me suis dit, ces deux êtres ont été conduits par la profondeur de ce qu'ils sont, et par le Créateur quand même. Parce que c'est parce qu'il y avait quelque chose, le mystère du divin qui circulait entre eux, qu'ils ont été aussi capables de dépasser tout ce qui pourrait, en théorie, faire de l'autre un ennemi et faire de l'autre qu'on ait envie de le tuer.
Sachant que Mohamed, lui, a été tué très très rapidement après cette rencontre.
Oui, parce que Mohamed a... Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert en faisant ce long voyage, puisque ça a duré 6 ans, je l'ai porté pendant 6 ans, cette histoire. Mohamed a protégé Christian pendant la guerre d'Algérie des moudjahidines qui souhaitaient le descendre. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, entre Christian de Chergé et son ami Mohamed, il y avait une relation filiale. Mohamed était un père pour Christian et Christian était un fils pour l'ami Mohamed. Et ça donne, je dirais, encore plus une couleur d'humanité qui, moi, m'a vraiment bouleversée, m'a vraiment touchée.
Fadila Semaï, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Et nous sommes en compagnie de Fadila Semaï, ancienne journaliste, désormais écrivaine. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, mais aussi parler de votre dernier livre, « L'ami parti devant », publié aux éditions Albin Michel. Il s'agit donc de l'histoire d'une rencontre entre le futur prieur de Tibérine, Christian de Chergé, et d'un Algérien, Mohamed, Algérien d'un petit village dans les années 50, à fin des années 50. Une rencontre finalement extrêmement brève, eu égard à l'importance qu'elle a revêtue pour ce futur moine.
Oui, c'est ce que j'ai découvert en enquêtant, c'est que l'amitié entre Christian de Chergé, comme vous le dites, le futur prieur de Tibérine, et Mohamed, son ami, a duré 4 mois. Et donc, ça dit d'autant plus la trace qu'il a, que cet homme, Mohamed, a laissé dans le cœur de Christian. Et ça dit aussi, Christian de Chergé le disait lui-même, que cette rencontre avait été une lumière dans cette période extrêmement trouble et troublée, évidemment la guerre, et que cet homme a été celui qui a influencé sa vocation d'un moine, enfin d'un religieux qui souhaitait revenir vivre en Algérie sa vie de moine à côté de priants musulmans.
Vous pensez que son action dans le Notre-Dame de l'Atlas, Tibérine, plus tard, a été directement influencée par cette rencontre ?
Ah oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Je pense que Christian, il a... D'abord, c'est quand même intéressant et drôle. Il a gardé cette amitié secrète pendant 13 années. Il a gardé ça sur son cœur avant d'en parler à ses frères religieux, chrétiens. Et puis peut-être après, de manière... Il était très pudique, hein. Il a dit peu de choses sur l'ami Mohamed, mais il est évident que cette rencontre a été déterminante pour Christian de Chergé, pour son action, pour sa théologie du dialogue. En quatrième de couverture, il est noté qu'il l'a mené au plus haut, et évidemment que ceci a influencé. Cette rencontre a été capitale.
Et peut-être son choix à la tête du monastère a peut-être été une conséquence indirecte de cette rencontre.
Bien sûr.
Alors, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur l'actualité, d'abord française, avec la décision du Premier ministre Manuel Valls d'utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire passer sa loi travail, un article qui dispense le texte d'être discuté par les députés. Il faut dire que le chef du gouvernement n'avait pas trouvé de majorité pour approuver son texte. Et c'est donc contraint qu'il a utilisé cet artifice de procédure.
Ça me fait mal au cœur d'avoir à utiliser ce type d'instruments prévus dans la Constitution.
Mais vous le faites.
Nous sommes dans la démocratie. Oui, je le fais, pas pour passer en force,
Monsieur Valls,
mais tout simplement parce que je pense que ce texte est utile.
Et si la gauche s'est révélée inconciliable au point qu'une partie d'entre elles avait déposé une motion de censure, la droite n'a pas manqué de faire remarquer que les socialistes se servaient d'un article qu'ils condamnaient voici peu. Exemple avec le favori des sondages, Alain Juppé.
La discussion parlementaire est en train de tourner à la farce. Nous avons appris aujourd'hui que ça se passerait au 49-3. Moi, j'ai rien contre le 49-3. Ça figure dans la Constitution. Et je crois me souvenir que j'ai l'ai utilisé quand j'étais Premier ministre. Bon, voilà. Donc, c'est un outil constitutionnel. Mais moi, je n'ai jamais déclaré le 49-3, c'est la brutalité, c'est un déni de démocratie. Cette déclaration, c'est M. Hollande qui l'a faite en 2006. C'est vous dire à quel point je comprends le trouble d'une partie de ses troupes qui a l'impression qu'entre déclaration et réalité, il y a un fossé.
La droite a fini par déposer à son tour une motion de censure qui a été débattue jeudi mais qui n'a pas obtenu la majorité nécessaire pour renverser le gouvernement. En marge de la politique, l'affaire Denis Baupin, du nom du député écologiste de Paris accusé d'agression et de harcèlement sexuel, la justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Le député a démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée nationale mais déposé plainte contre le site internet Mediapart et la radio France Inter pour diffamation. Mercredi, un groupe de féministes a manifesté devant le Parlement, comme le rapporte Alexis Bedu.
Ras le viol, quand une femme dit non, c'est non.
L'affaire Denis Baupin, c'est l'affaire de trop pour ces militantes féministes. Elle touche une fois de plus les hommes politiques, ceux par qui le changement est censé arriver. Suzy Rothman, porte-parole du collectif national pour le droit des femmes, est révoltée.
Si ceux qui rédigent et votent la loi en sont encore là,
c'est que c'est vraiment catastrophique. Personne ne s'offusque qu'il y a simplement 10% des victimes de violences qui portent plainte et que 90% ont suffisamment peur de la justice pour ne pas porter plainte. C'est quand même un gros scandale.
Pour la députée Europe Écologie Les Verts, Eva Sas, collègue de Denis Baupin et présidente de l'association des élus contre les violences faites aux femmes, les mentalités ont tout de même évolué.
Devant l'affaire Denis Baupin, il y a eu une réaction très ferme et très claire. D'abord de soutien aux personnes qui ont témoigné, aux femmes qui ont témoigné. Et ensuite, il a été démis immédiatement de ses fonctions de vice-présidence de l'Assemblée nationale et il a dû démissionner du groupe écologiste également. Et je crois que ça peut faire évoluer les mentalités parce que les femmes à l'avenir savent qu'elles seront soutenues.
Les associations féministes réclament des mesures fermes et notamment que les hommes politiques reconnus coupables de violences sexuelles ne puissent plus se présenter aux élections.
Quelques notes et quelques marches descendues sur un tapis rouge. Mercredi s'est donc ouvert le 69e Festival de Cannes. Jusqu'au 23 mai, des stars du monde entier se donnent rendez-vous sur la Côte d'Azur pour monter ces fameuses marches du Palais des Festivals. Pendant les prochaines deux semaines, Cannes mériterait la palme de la ville française la plus regardée et la plus équipée en caméras de vidéosurveillance. Six mois après les attentats de Paris, les autorités ont promis une mobilisation exceptionnelle face à un risque plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Isabelle Chenu.
Le tapis rouge est installé sur les 24 marches mythiques du Palais du Festival. Les derniers préparatifs ont lieu sous haute sécurité. Six mois après les attentats de Paris, sept semaines après ceux de Bruxelles. Cannes est déjà une ville quadrillée par les caméras de vidéosurveillance, un dispositif renforcé par des centaines de policiers, équipes de démineurs et agents de sécurité privés afin que la plus grande fête du cinéma se déroule au mieux. Il faut dire que la ville triple sa population. 200 000 personnes vont se croiser pendant ces deux semaines et des dizaines de stars vont se succéder au fil des projections, à commencer par l'équipe de Café Society, le dernier Woody Allen. Au total, 21 films de 14 nationalités sont en compétition officielle pour la Palme d'Or, qui sera décernée cette année par un jury présidé par le réalisateur australien George Miller, le père de la saga Mad Max. Au-delà des paillettes, c'est aussi ici à Cannes que va s'ouvrir demain le plus important marché du film de la planète. 12 000 professionnels accrédités pour un volume d'affaires qui avoisine les 800 millions d'euros.
Sept jours en Afrique.
Abordons maintenant justement l'actualité en Afrique. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila pourra rester au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Il s'agit de parer à l'éventuel report de la prochaine élection présidentielle. Mais l'opposition y voit aussi une tentative pour l'actuel président de s'accrocher au pouvoir. Anne Cantner.
La Cour constitutionnelle veut éviter tout vide à la tête du pays et assurer la continuité de l'État. Elle s'appuie donc sur l'article 70 qui dit « À la fin de son mandat, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu ». C'est ce que souhaitait la majorité. D'ailleurs, pour le parti au pouvoir, la mesure est valable pour tous les élus, c'est-à-dire non seulement le chef de l'État, mais aussi les députés et les sénateurs. Pour le secrétaire général adjoint du PPRD, c'est clair. Tous resteront en fonction jusqu'à ce que leur successeur soit choisi par les électeurs. De quoi inquiéter les opposants qui redoutent depuis des mois de voir Joseph Kabila s'éterniser au pouvoir. Pourtant, le député d'opposition Martin Fayulu estime que cette décision de la Cour n'est pas mauvaise. Il précise que l'article 70 parle bien de président élu et que quelques lignes plus loin, la Constitution oblige la commission électorale à organiser le scrutin trois mois avant la fin du mandat présidentiel, c'est-à-dire au plus tard fin septembre. Dans son arrêt, la Cour d'ailleurs ne parle pas de report et pour l'opposant, il ne s'agit donc pas d'un blanc-seing. Au contraire, selon lui, la CENI n'a pas le choix, elle va devoir tenir les délais.
Un nouvel accrochage au Mali entre l'armée régulière et un groupe armé djihadiste près de Gao. Un militaire et un assaillant ont été tués. Cette fois encore, il s'agissait pour les miliciens de mettre la main sur l'armement des troupes régulières. Cet événement intervient alors qu'une seconde arrestation importante d'un djihadiste présumé est intervenue en début de semaine près de Bamako. Il s'agirait cette fois du numéro 2 de la branche sud du groupe en Sardine. Serge Daniel à Bamako nous en dit plus.
La quarantaine de nationalité malienne, l'homme du nom de Yacouba Touré, a été arrêté par les forces spéciales des services de renseignement du Mali. Avec son physique de boxeur, catégorie poids lourd, Yacouba Touré est également celui qui fournit en armes les djihadistes qui opèrent au sud du Mali, précise une source proche de l'enquête. Selon la même source, il est également le pourvoyeur d'armes à la branche naissante du groupe en sardine du Burkina Faso. Explication ? Dans ses premières déclarations aux enquêteurs, Yacouba Touré aurait déclaré qu'en 2010, il était dans les rangs des islamistes du nord du Mali, où il a connu un certain Boubacar Sawadogo, originaire du Burkina Faso. Ce dernier serait aujourd'hui à la tête d'une unité combattante chargée de commettre attentats et attaques au Burkina. En octobre 2015, ce serait le même Boubacar Sawadogo et ses hommes, après avoir reçu des armes des mains de Yacouba Touré, qui aurait attaqué un poste de sécurité au Burkina, tuant des gendarmes.
La tension est remontée d'un cran dimanche dans la ville de Dogougou au Burkina Faso. L'expulsion du représentant local du mouvement des droits de l'homme et des peuples par le chef du canton a ravivé les tensions dans cette ville située à 250 km à l'ouest de la capitale. Depuis plusieurs jours déjà, des jeunes de la ville s'en étaient pris aux forces de l'ordre après le décès de l'un d'eux, après un séjour à la gendarmerie. Yaya Boudani à Ouagadougou.
Les partisans du chef du canton de Dédougou ont obligé le président de la section locale du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples à quitter la ville. Selon Chrysogone Zougmoré, président du MBDHP, Kadinza Lamoussa a été embarqué mano militari dans un véhicule avec ses effets personnels et déposé en race campagne sous l'ordre du chef du canton. Il est reproché au représentant local du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples son rôle dans les manifestations que la ville a connues en début de semaine dernière. Il est accusé de n'avoir pas usé de tout son poids pour mettre fin aux manifestations, souligne Chrysogone Zougmoré. Les partisans de Lamoussa Kadinza qui ont voulu protester contre cette expulsion ont été dispersés à coups de bâton. Sur les antennes de la télévision publique, le chef du canton accuse le représentant local du MBDHP d'avoir commis une faute lourde, celle de transgresser leurs coutumes sans d'autres précisions. « C'est normal qu'on défende nos coutumes », a fait savoir le chef du canton. Dépêché sur place, le gouverneur de la région rassure que les réparations d'usage seront faites et que la situation reviendra à la normale dans les jours à venir.
Au Burundi, les réactions se sont multipliées après le verdict de la Cour suprême qui condamne une vingtaine de militaires et de policiers à la prison à vie pour participation à une tentative de coup d'État contre Pierre Nkurunziza en mai 2015. Mais pour l'opposant Jérémy Minani, président du Rassemblement des démocrates burundais, ce verdict est honteux et la Cour suprême instrumentalisée.
Au nom du Senared, je dois vous dire que nous sommes sous le choc. Nous désapprouvons l'arrêt de la Cour suprême. C'est un arrêt honteux. C'est tout simplement une autre preuve que la justice burundaise est instrumentalisée et travaille pour celui-là même qui a renversé les institutions, qui a commis un coup d'État en se déclarant candidat pour un autre mandat présidentiel que la Constitution ne lui permettait pas. Ces militaires et policiers qui viennent d'être condamnés sont ceux-là qui avaient refusé de tirer sur les manifestants pacifiques. L'acte qu'ils ont posé le 13 mai était un acte citoyen, un acte patriote. Il s'agissait d'écarter un président qui venait de violer la Constitution et l'accord d'Arusha. Il voulait tout simplement écarter un tyran, un sanguinaire qui avait décidé de piétiner les lois fondamentales du pays pour servir ses intérêts personnels.
RFI. Vous écoutez une semaine d'actualité. En Algérie, l'ancien ministre de l'énergie, soupçonné de corruption, s'est exprimé à la télévision pour la première fois depuis plusieurs années. Chabil Khalil avait quitté le pays en 2013. De retour en mars dernier, il multiplie les entretiens dans des médias privés, crée des comptes sur les réseaux sociaux et rend visite à des confréries religieuses. Sa première apparition télévisée a été consacrée au rejet des accusations portées contre lui. Compte rendu de Leila Berato à Alger.
Il y a 3 ans, le procureur général annonce qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre Chakib Khalil pour corruption et association de malfaiteurs. Mais à la mi-mars, lorsque l'ancien ministre algérien rentre au pays, après 3 années aux États-Unis, il est accueilli officiellement et des personnalités politiques affirment alors que la justice ne lui reproche plus rien. À la télévision, hier soir, Chakib Khalil a répété à plusieurs reprises « Il n'y a aucune preuve contre moi, ni en Italie, ni en France, ni en Algérie ». et il s'est expliqué sur ses comptes bancaires à l'étranger.
J'avais de l'argent en Suisse à cette époque et cet argent venait de ma retraite de la Banque mondiale. J'ai placé l'argent en Suisse pour ne pas payer d'impôts aux États-Unis. Maintenant, j'ai rapatrié tout mon argent aux États-Unis parce que j'ai enfin obtenu une carte de résident.
Depuis son retour, Chaki Prelil a rendu visite à plusieurs confréries religieuses. Un parcours similaire à celui d'Abdelaziz Bouteflika juste avant son élection en 1999. Ce qui fait dire à certains que l'ancien ministre de l'énergie pourrait être un candidat à la présidentielle. Hier, il a répondu « C'est le peuple qui décidera bientôt, mais si le président me sollicite, je répondrai présent. »
La Tunisie a pied d'œuvre pour préparer sa saison touristique. Le tourisme est un secteur clé pour l'économie du pays, mais il peine cette année encore à redémarrer. D'où la décision de renforcer encore un peu plus les mesures de sécurité dans les zones touristiques. Djihan Bergaoui à Tunis.
Détecteurs de métaux à l'entrée des hôtels, caméras dans les établissements et jusque sur les plages, formation des employés. En prévision de la reprise de la saison, les 120 inspecteurs du tourisme multiplient les opérations de contrôle et scrutent avec précision les dispositifs de surveillance au sein de chacun des hôtels. Plus de 12 000 opérations d'inspection ont déjà été menées rien que pour l'année dernière et des opérations pour faire appliquer le nouveau protocole de sécurité mis en place par les ministères de l'Intérieur et du Tourisme. Si des établissements ne respectent pas les consignes. Les inspecteurs sont là pour sanctionner. Et d'abord un simple avertissement, puis une fermeture si l'hôtelier ne se met pas rapidement aux normes. L'objectif est clair, assurer la meilleure sécurité possible pour faire revenir les clients étrangers. Mais pour certains professionnels, la véritable reprise du tourisme passe plutôt par la levée des restrictions de voyage. Depuis l'attentat de Sousse en juin dernier, la Belgique et le Royaume-Uni déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans le pays en raison du risque terroriste.
Fadila Semaï, vous vouliez dire un mot justement sur la Tunisie et sur la situation aujourd'hui.
Oui, c'est quand, lorsque vous étiez en train de parler des actions citoyennes en Afrique, je pensais, oui, à la Tunisie qui est un pays quand même qui fait preuve de beaucoup d'énergie pour faire de cette nation une démocratie. Et ce qui m'est venu dans l'esprit, c'est que nous avons en Europe intégré les anciens pays du bloc communiste, et c'est bien. Mais certains nous montrent qu'ils font fi du droit de la presse, des droits de l'homme. Et néanmoins, nous leur donnons beaucoup d'argent pour qu'ils puissent justement développer une démocratie, une liberté, de l'éducation. Or, la Tunisie nous demande de l'aide et de l'aide matérielle. Et nous ne sommes pas capables de débloquer un peu d'argent pour aider cette nation qui a véritablement fait preuve d'une volonté de s'ouvrir, d'être démocrate et pluriel. Donc je trouve ça un peu dommage.
Et qui est directement menacé par notamment les groupes islamistes de la Libye voisine.
Absolument.
Des quartiers défavorisés aux plus grandes scènes, il n'y a parfois qu'un pas franchi allègrement par les Dizzy Brains, phénomène punk rock du moment, révélé au Transmusical de Rennes en France, adoubé au Printemps de Bourges. Le groupe vient de signer avec RFI Talent pour son premier album, Out of the Cage en anglais. José Marinho.
The Dizzy Brains sont quatre gringalets d'une vingtaine d'années, grandis dans les quartiers désespérés et violents de Madagascar. Ils chantent la révolte et cela s'entend dans le ton survolté du chanteur qui hurle comme un possédé. Dans un ska speedé et un punk irrésistible, les 13 titres en français, anglais et vang, le langage cru des gamins des rues malgaches, dénoncent la corruption et la misère. Censuré par les médias malgaches depuis leur création en 2011, The Dizzy Brains traînent leur musique dans les bars de prostituées, crèvent de faim et dorment dans la rue, mais ils ont survécu et leur musique a gagné en puissance pour conquérir l'Occident. Fraîcheur, énergie et une colère rare de nos jours, The Dizzy Brains, surnommés les Ramones du tiers-monde, redonnent du poil de la bête aux clichés les plus usés du rock.
Les Dizzy Brains, qui sont actuellement en tournée pour 25 concerts en France, ils étaient hier à Clermont-Ferrand et seront lundi prochain au Pan Piper à Paris. Fadila Semaï, on reparle de votre livre, L'ami parti devant, publié chez Albin Michel. Alors, comment avez-vous retrouvé la trace de cette histoire particulière? terre. Qui vous a informé et comment avez-vous été convié sur cette terre d'Algérie ?
Alors là, je dois dire que je reprends mon ancienne casquette de journaliste. J'ai longtemps travaillé sur le sujet avant de sentir intérieurement que le moment était venu de partir, de se mettre en mouvement pour aller vers l'Algérie. Donc j'ai beaucoup travaillé, ça veut dire que la particularité que j'ai eue peut-être, c'est que je souhaitais retourner à la source de cette histoire en essayant d'interroger au plus profond les détails de l'histoire. Et pour cela, j'ai évidemment beaucoup lu, essayé de beaucoup connaître Christian de l'intérieur, puisque c'est un homme évidemment que je n'ai jamais rencontré, Christian de Chergé. J'ai rencontré des gens qui l'ont connu. Et puis, j'ai quand même, je dois le dire, même si j'ai été aussi beaucoup conduite par mon instinct, mon intuition, ma sensibilité pour aller à la rencontre de ces deux hommes de l'intérieur. Donc, il y avait forcément une dimension.
Vous êtes même allée au Maroc pour retrouver un moine qui était rescapé, finalement.
Absolument, je suis allée voir Jean-Pierre Schumacher. Alors, il faut savoir que Jean-Pierre Schumacher, je lui ai écrit il y a 6-7 ans, parce que je souhaitais faire un documentaire de cette histoire et que je l'avais sollicité et qu'il n'avait pas été en mesure de pouvoir me recevoir à l'époque. Il ne le souhaitait pas. Et donc, j'ai comme ça, de manière très petite, très modeste, très humble, je suis allée à la source de toutes ces petits détails sur la vie de ces hommes pour essayer de dégager ce qui était l'essentiel de leur rencontre.
Est-ce que, par exemple, vous avez retrouvé des traces de Mohamed ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui l'ont connu à l'époque et qui pouvaient témoigner ?
Alors, oui et non. Il faut quand même être raisonnable. Alors, il y a quelque chose quand même qui m'a fait sourire, c'est que le téléphone arabe, c'est une réalité. C'est une réalité. La trace de Mohamed, elle était quand même dans la montagne avec ce vieil homme que j'ai rencontré et qui a été capable de me dire « oui ». Je connais, il y avait une Citroën, donc c'était la voiture de Mohamed. Il a été capable de retrouver des petits détails sur Mohamed et de me mener à la famille de Mohamed, hein, de manière... voilà. Donc oui, et puis, dans la rue, là où habite le fils de Mohamed, il y a des gens qui connaissent l'histoire. Je l'ai su. Donc il y a encore la trace de ce qu'a été Mohamed. Après, les témoins oculaires, ceux qui auraient assassiné ou ceux qui étaient présents le jour où le guet-apens a été monté, j'ai fait très attention parce que je savais qu'en m'approchant de Tibérine, je rentrais dans une histoire extrêmement complexe et mon souhait était aussi de protéger la famille de Mohamed. Donc j'ai fait très attention de ne pas non plus déranger les choses pour que ça ne crée pas, entre guillemets, un incident plus grave.
Alors, Tibérine, vous y allez, évidemment. Est-ce que vous voyez des traces de ce... Évidemment, de Christian de Chergé, c'est une évidence, mais des choses qui vous ont marqué, qui vous ont frappé en arrivant dans le monastère?
Alors, ce qui m'a frappé en arrivant, c'est visuel. C'était le Mirador. C'est incroyable. Enfin, il est tout près de l'enceinte du monastère. Ça a été la première chose. La seconde chose, et je le dis, c'est que ce monastère, il est dans un entre-deux. Il cherche encore sa nouvelle vie. Mais c'est un monastère qui accueille énormément de gens, des Algériens, des Français, des gens du monde entier viennent voir le monastère. Donc ça aussi, ça m'a frappée parce qu'il y avait une très grande carte du monde sur un mur et on voyait tous les pays qui étaient venus à un moment ou à un autre à Tibérine. Donc on n'imagine pas du fin fond du monde, des Philippines, d'Indonésie, d'Afrique, enfin partout. Ça a été frappant. Je me suis dit l'esprit, le souffle de Tibérine, qui a été quand même cette rencontre pour moi entre Christian de Chergé et Mohamed, souffle sur le monde entier. Et la dernière chose qui m'a frappée, c'est évidemment la salle du Ribat, là où ils se retrouvaient pour les réunions de dialogue spirituel. C'est une salle qui m'a profondément touchée.
Est-ce dans cette salle que l'on voit le portrait de Al-Alaoui, qui est le soufi algérien, né à Mostaganem dans les années 1834, voilà. Et donc, qui a peut-être influencé, ou qui montre en tout cas que Christian de Chergé était quelqu'un qui était en faveur, en tout cas, du dialogue entre les religions.
Alors oui, c'est dans cette salle qu'il y a le portrait du Cheikh Al-Alaoui et qui est un portrait magnifique. Et alors je voudrais dire quelque chose. Évidemment, Christian de Chergé, c'était un homme qui a été pour beaucoup dans la rencontre entre ces deux traditions spirituelles. et dans l'échange, le partage. Mais je crois qu'il y avait dans la communauté des moines qui étaient tout aussi imprégnés de cela. Et par exemple, je pense au frère Christophe, que j'ai découvert aussi en le lisant. Je sens le même souffle, le même réalisme, le même désir de non-violence et d'humanité commune. Je n'ai pas connu Michel, mais il y a une phrase qui m'a frappée, où Christiane de Cherger, parlant de Michel, dit « C'est peut-être celui d'entre nous qui est le plus mystique ». Pourquoi je dis ça ? Parce que l'unité, c'est le message profond de toutes les grandes traditions spirituelles. Quand on rentre de l'intérieur dans une tradition spirituelle, on rencontre l'unité. Cependant, la vérité, c'est un dépassement de la forme sans nier la forme. Et je crois que c'est des hommes qui ne sont jamais tombés dans le syncrétisme, mais qui ont su dépasser leur forme pour pouvoir rencontrer la forme de l'autre, sans jamais abandonner leur spiritualité.
Merci Fadila Semaï, écrivaine. Je renvoie votre livre, L'ami parti devant, publié aux éditions Albin Michel, récit qui raconte l'amitié entre le prieur de Tibérine, Christian de Chergy, et un garde champêtre algérien d'un petit village qui s'appelait Mohamed. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.